Bonsoir, chers amis. Nous sommes donc le 7 décembre pour cette avant-dernière leçon de notre cours d'anthropologie qui s'intitule L'insoutenable légèreté de l'être. Non, pardon, l'insoutenable légèreté de l'homme. Et dans ce dernier chapitre, le chapitre 7, qui aura deux parties, celle-ci et la semaine prochaine, donc ça s'intitule « La personne devant Dieu ».« La personne devant Dieu ». Donc c'est une question de philosophie, d'anthropologie. Ce n'est pas de la théologie que je vais faire, même si évidemment, étant un philosophe croyant, un philosophe chrétien, je vais de temps en temps faire des allusions à des notions de la foi chrétienne, mais j'essaie de les examiner comme des données qui peuvent être intéressantes pour la réflexion de tout homme, pas comme des choses que je veux, que l'on croit, etc. Mais voilà, malgré tout, ce ne sera pas du tout l'essentiel de mon propos, bien sûr. La personne devant Dieu. La question est, après toute cette description que nous avons faite de l'être humain, de la personne, est-ce qu'il y a une question qui se pose à l'homme en général, de savoir s'il y a un être divin au-dessus de lui, ou autour de lui, ou en lui, ou Dieu sait quoi? Une question qui est traditionnelle, que toute l'humanité s'est posée depuis très longtemps en y répondant de toutes sortes de manières. Voilà, je vais essayer moi-même donc de risquer une réponse que je vais tenter de donner de manière assez nuancée. Alors souvenez-vous qu'on a vu toute une série de chapitres, 6 chapitres, et à travers ces chapitres, j'essayais de montrer comment l'être humain, qui au point de départ est un individu quelconque si on veut, mais qui a un corps quand même, un corps particulier que l'on peut distinguer des autres corps, comment à travers toute une série de stades, à travers toute une dynamique, parvient à mettre en route des puissances qu'il a en lui, et grâce à ces puissances, eh bien, il se forge de plus en plus une personnalité et il devient une personne. Donc on part comme individu, je réserve le terme individu à la catégorie de la particularité un peu indifférenciée, c'est un qui n'est pas un autre, c'est tout, hein. Et de l'individu, on progresse pour devenir une personne. Et la personne est caractérisée par la catégorie de la singularité. Donc ce sont des catégories hegéliennes, hein? Besonderheit, particularité, Einzelheit, singularité. Alors la singularité, c'est quoi? C'est cette particularité qui se précise, qui s'universalise, parce qu'elle entre en contact avec de plus en plus de choses extérieures à elle, elle les assimile, elle les communique, etc. Et elle devient ainsi, cet individu particulier devient une personne singulière. Donc dans cette première partie, je vais essayer de redéfinir comme conclusion hein, de tous nos cours jusque maintenant, ce qu'est une personne. Et la fois prochaine, je mettrai cette personne, si on veut, devant Dieu, hein, en prenant le petit livre de Karl Rahner, de 1941, un cours qu'il a donné à Salzbourg, Hörer des Wortes, à l'écoute de la parole, l'écouteur, l'auditeur de la parole. Donc ça c'est pour la fois prochaine, Karl Rahner, hein, l'homme, la personne à l'écoute du mot, de la parole, du verbe, mais cette fois-ci c'est essayons de préciser, de donner toutes les nuances à ce qu'est une personne. Alors je vous donne une petite, je vous lis une petite... ensemble de définitions que nous allons préciser. La personne humaine est le sujet singulier, corporel, il a un corps, dans lequel subsistent les puissances que nous avons évoquées, la liberté, le langage, la sociabilité, l'historicité, la mortalité. Dans ce sujet, donc, subsistent toutes ces puissances, c'est le titre des, hein, des 5 chapitres qui ont suivi le corps. Toutes ces puissances appartiennent au sujet. Elles appartiennent au sujet, elles sont donc propriété de ce sujet, si on veut, il les a en lui, mais elles sont en même temps, ces puissances, une incitation à une réponse et à une communion avec ce qui est à l'extérieur de lui. Donc c'est une appropriation qui ne le referme pas sur lui-même, hein, mais qui l'arme, qui le dote de toutes sortes de, voilà, de possibilités de communiquer à l'extérieur et de communier. Communication et communion, évidemment, c'est bien différent, mais la communion est plus profonde, mais elle exige quand même une certaine communication. Et donc, cette capacité de la personne humaine de s'approprier des puissances de langage, de liberté, de sociabilité, d'historicité, etc., cette personne humaine se les approprie, mais pour les partager avec d'autres et entrer avec d'autres en communication. Est-ce qu'il peut entièrement se communiquer à l'autre? Sans doute que non. Il y a une certaine incommunicabilité de la personne humaine, il y a un secret, un mystère de la personne humaine, et en même temps il y a une ouverture à l'univers, mais surtout aux autres personnes humaines, pour communier, pour partager. Partager ce qui est logiquement communicable, mais aussi partager ce qui est peut-être incommunicable, dans une forme de don, d'amour, d'accueil, qui n'est pas sans parole, mais qui alors exige une parole plutôt poétique, mystique, etc. Voilà, donc ce sujet qui est appelé à la communion, eh bien il le fait à partir de toutes ces puissances qu'il a en lui, et ces puissances qu'il a en lui le rendent responsable, intelligent, bon, et responsable de ce qu'il fait, de ses actes. La personne est ultime sujet d'attribution des actes et des puissances, je vais expliquer un petit peu, mais disons c'est voilà, le centre, hein, à qui on attribue voilà, cette vie de communication à laquelle la personne humaine est appelée, et dans laquelle transparaît le plus manifestement, eh bien, la liberté qu'elle a de communiquer ou non, etc. Mais cette communication n'épuise pas toute l'énergie de l'acte d'être de la personne, hein, l'énergie d'amour, le mystère de l'être de la personne. Alors voilà, vous vous souvenez que dès le point de départ, j'avais parlé des quatre dimensions, hein, anthropologiques. Et ça, c'est une des grandes structures de mon cours d'anthropologie. Les quatre dimensions anthropologiques, ça veut dire le corps, le psychisme, la raison, raison théorique et pratique, hein, intelligence et volonté, et finalement l'esprit. Hein, l'esprit que j'ai défini comme... Souvenez-vous, hein, la liberté présente à elle-même. Qu'est-ce que c'est un esprit? Nous sommes des esprits, nous sommes des êtres spirituels. Pourquoi? Parce que nous sommes libres, parce que nous le savons, et parce que nous voulons exercer cette liberté, dans un sens ou dans un autre, hein, pour le meilleur ou pour le pire, dirais-je. Hein. Mais voilà, est esprit celui qui se sent libre, et qui veut être libre, et qui veut être de plus en plus libre, hein, qui ne veut pas s'aliéner, mais au contraire, eh bien, se libérer pour communiquer davantage. Alors, ces quatre dimensions anthropologiques, corps, psychisme, raison, théorique et pratique, et esprit, ça c'est une structure que j'utilise constamment, aussi en psychologie d'ailleurs, hein, lorsque je travaille ce domaine-là. Et il y a aussi une autre structure très importante pour moi, ce sont les quatre semaines des exercices spirituels. De Saint Ignace de Loyola, hein, 4 semaines, je vous en ai parlé, je crois, au début de la seconde leçon sur la liberté, les 4 semaines qui débouchent sur une réflexion sur les moments, les temps de la liberté. Les 4 temps de la liberté, c'est l'intention, le choix, le travail, la fruition. Ça, vous avez au dos de votre feuille de route, hein. Vous avez les 4 semaines, les dimensions anthropologiques, les temps de la liberté, et puis encore bien d'autres choses que je vais développer dans la seconde partie. Mais donc, je vais refaire un peu le tableau que vous avez sous les yeux, sous la feuille de route, hein, mais peut-être que ceux qui vont me regarder n'ont pas la feuille de route, donc je vais un peu reconstruire rapidement, et comme ça vous voyez comment on avance. Alors voilà le triangle, et là derrière, comme vous savez, en dessous je mets le corps, c'était le chapitre 1. Le chapitre 1. Ensuite vient le psychisme, la raison. Alors le psychisme, j'en parle pas beaucoup finalement dans ce cours d'anthropologie, c'est plutôt dans un cours de psychologie bien sûr qu'on en parle, mais quand même, au niveau du psychisme, je pourrais indiquer le langage et la société. Le langage est en effet quelque chose qu'on apprend quand on est petit, qui a une valeur logique mais aussi affective, nous l'avons bien vu, qui est une matrice. Ce n'est pas seulement un outil à la façon grecque, mais c'est vraiment une matrice de compréhension de l'univers dans laquelle nous sommes accueillis plutôt que acteurs et inventeurs du langage. Donc le langage et la société. Société, voilà, c'est la manière dont les relations s'effectuent entre nous. Donc je mets le langage là et la société de l'autre côté. Alors en général, c'est indiqué sur la feuille de route, de ce côté-ci, à gauche, c'est plutôt, disons, le versant individuel et là, le versant collectif. Mais évidemment, sans forcer, parce que bien sûr, on ne peut pas parler tout seul. Quoique, sans doute, une fois qu'on a appris à parler, c'est avec soi qu'on parle plus. Sans doute. Ensuite, un peu plus haut, avec la raison. On a étudié le chapitre sur la liberté, qui était le deuxième chapitre, et le chapitre sur l'histoire, qui était le cinquième chapitre, et je vous ai dit, l'histoire, c'est les libertés au pluriel. Pas la liberté, mais les libertés au pluriel. Et enfin, dans le sixième chapitre, le chapitre précédent, on a discuté de la mort et de la manière dont l'homme, dans la mort, qu'est-ce qu'il fait ? Il constate que il peut quand même faire une option sur sa mort. Son esprit peut être plus fort que la peur de la mort. Il peut éventuellement y consentir, lui donner un sens, une valeur. Souvenez-vous, sens et valeur, c'est aussi un petit doublet que j'utilise constamment pour intelligence-volonté, sens et valeur, mais que malgré tout, il faut bien reconnaître qu'il y a un échec dans la mort, mais que cet échec est surmonté d'une certaine manière lorsqu'on se déprend de soi-même pour s'abandonner aux autres qui nous suivent ou même qui nous précèdent éventuellement. S'abandonner aux autres, s'abandonner à l'être, s'abandonner à Dieu. Bon, ça, c'est le sens que j'ai essayé de donner à la mort humaine. La mort humaine étant tout à fait différente de simplement la mort d'un végétal ou d'un animal, bien sûr, puisque l'homme a conscience de cette mort. Alors, j'ai indiqué sur votre feuille de route, ça c'est trois petites indications très importantes, la raison comme forme du penser, la liberté comme forme de l'agir et l'âme comme forme de l'être. Alors je vais indiquer ça également. La raison comme forme du penser, la liberté comme forme de l'agir et finalement l'âme comme forme de l'être. Chapitre 7, il se trouve à hauteur de cette âme, et Dieu se trouverait éventuellement au-delà de la pointe de ce triangle. Alors j'ai essayé d'orienter la caméra pour qu'on puisse quand même voir le dessus du tableau, mais je ne sais pas si le mot « Dieu » est visible pour tous ceux qui sont à la caméra. Hein, mais en tout cas, bon, ou bien alors on ne me voyait plus, ou bien on voyait, bon il fallait bien un peu trouver un truc. Alors qu'est-ce que je veux dire? D'abord vous voyez, c'est pas tellement difficile je crois, vous voyez comment je situe les chapitres que nous avons étudiés. Le corps, ben, c'est la base, hein. Un être humain, ce qui est le plus visible pour un être humain, c'est qu'il a un corps qu'on reconnaît, qui n'est pas le même corps qu'un animal, etc. Il a un corps, mais une fois qu'on a vu ce corps, bon, il y a encore beaucoup d'autres choses invisibles qui font la personne. Mais une chose assez visible quand même, mais qui requiert déjà pas mal d'immatérialité, c'est le langage. Il parle, il vit en société. Il n'est pas le seul, hein, les fourmis aussi, etc., bien sûr, mais c'est une société beaucoup plus élaborée. Il a une liberté qui se conjugue au pluriel, qui devient une histoire. Et là, vous vous souvenez de cette très importante triplicité de l'histoire, hein, l'histoire naturelle, l'histoire humaine et l'histoire surnaturelle, qui me semble essentielle pour comprendre un petit peu, disons, le cadre général de mon cours d'anthropologie. Et qui permet de situer la mort. Hein. La mort, c'est l'achèvement, hein, de notre histoire naturelle, mais c'est l'accomplissement de notre histoire humaine, et puis peut-être que c'est même encore plus dans une histoire surnaturelle. Donc voilà, ce n'est pas trop difficile, je crois, sur ce triangle de situer les sept chapitres. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, la raison, forme du penser? D'abord, forme. Ce mot, forme, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans philosophie classique, et en particulier dans l'ontologie, la métaphysique, la forme, c'est cette partie immatérielle de l'être matériel. La forme du chat, c'est pas la forme que l'on peut dessiner, hein, mais c'est ce qui fait son essence de chat. C'est donc tous les concepts, je dirais, qu'il faut mettre ensemble, hein, pour que le chat soit un chat. Et donc la forme du chat est différente de la forme d'un végétal, etc. Et donc, c'est un principe d'unité, d'une série de caractéristiques, d'accidents, de caractéristiques qui font qu'on reconnaît. On reconnaît ce chat comme étant une substance chat et pas autre. C'est donc un principe d'unité et un principe d'intelligibilité à la fois. Là, bien sûr, il y a une espèce de rapprochement, hein, de ce qui est ontologique et de ce qui est épistémologique. Hein. Ce qui fait la qualité du chat est réuni dans un concept qui est sa forme. Et sa forme, donc, lui donne l'unité, une intelligibilité, nous comprenons ce que c'est, et aussi une énergie. C'est à partir de cette forme qu'il est un chat vivant. Bon, évidemment, si c'est la forme d'un triangle, la forme n'est pas vivante. Mais dans la métaphysique, je dirais, classique, depuis l'Antiquité, la forme est aussi une espèce d'énergie par laquelle s'unifie, hein, l'être, l'étant plutôt, la substance. Donc dire que la raison, c'est la forme du penser, c'est dire que notre puissance raisonnable, la raison, eh bien, c'est ça qui donne à notre pensée d'être une pensée humaine. Et c'est ça qui propulse notre pensée humaine dans une dynamique, hein, de réflexion de type humain. Voilà. Donc la raison nous donne de penser d'une certaine manière. La liberté, c'est la forme de l'agir. L'être humain ne fait pas que penser, il n'est pas que théorique. Hein. Il l'est bien sûr, mais il est aussi pratique, il agit. Souvent, il est obligé d'agir, parfois même sans penser auparavant, mais quand même, la plupart du temps, bien sûr, hein, il y a la pensée et l'agir s'embrayent l'un sur l'autre, mais c'est en vue de l'agir. La liberté est la forme de l'agir. L'être humain agit de manière libre. Ça ne veut pas dire entièrement libre, mais en tout cas pas déterministe. Hein. Il est parfois conditionné par certaines choses, d'accord, mais il n'est pas entièrement conditionné au point qu'on puisse dire que c'est du déterminisme. Il y a une marge de liberté qui est plus ou moins grande, selon les personnes, selon les conceptions, etc. Et donc, l'agir humain est fondamentalement un agir marqué, scellé par la liberté. Et l'âme est la forme de l'être. Alors là, c'est une troisième puissance que j'amène ici, je n'en avais pas parlé jusque maintenant. Cette âme, ce n'est pas la psyché, hein, la psyché qui se trouve au niveau 2 pour Aristote, hein, que j'ai plutôt appelé le psychisme, l'affectivité, etc. L'âme, ici, c'est la forme de l'être de la personne. C'est son énergie d'être, son acte premier d'être quelque chose, et en particulier une personne. Donc, si on est religieux, on peut penser que cette âme, eh bien, elle a été spécialement créée par Dieu au moment de la conception. Alors, pas entièrement si on veut, parce que l'être humain a aussi une âme de type animal, hein, mais cette âme est proprement humaine parce que Dieu, d'une certaine manière, au moment de sa conception, la touche de son regard, de sa grâce, de son élection, de son désir de dialogue avec cet être humain, quelle que soit d'ailleurs la manière dont il est conçu, peu importe, hein, eh bien, Dieu veut entamer, il prend l'initiative d'un dialogue avec cet être humain qui surgit dans l'être. C'est ça, qu'on signifie lorsqu'on dit que c'est Dieu qui crée l'âme. Ce ne sont pas les parents. Hein, les parents donnent tout ce qu'il faut pour que le sujet soit là, mais ils n'ont pas besoin de penser à Dieu d'ailleurs, hein, mais Dieu, eh bien, lorsqu'un être humain est conçu, lorsque tout être humain vient au monde et est conçu, eh bien, Dieu veut entrer en dialogue avec lui, hein, il le choisit, si on veut, hein, comme potentiellement son fils, sa fille, potentiellement, ça veut dire qu'il désire qu'il y ait une dynamique, hein, de relation entre lui et cet être. Donc l'âme, si on enlève ce côté religieux, bon, ben, on comprend que la question de l'anthropologie, l'âme, eh bien, c'est l'acte d'être. L'acte d'être, alors c'est beaucoup plus abstrait, bien sûr, hein, c'est beaucoup plus métaphysique, mais beaucoup de philosophes utilisent quand même cette manière de parler. Il y a un acte d'être qui précède les actes de l'action, de l'agir. Alors là, bien sûr, il faut un petit peu l'esprit métaphysique, hein, pour se dire, avant d'agir, je suis. Alors je peux faire 36 choses, évidemment, c'est très important, mais toutes ces 36 choses que je vais faire découlent du fait que je suis. Hein. Et le fait que je suis, cet acte d'être qui est en moi, il est premier, il précède tous les autres actes, il est d'un autre ordre. Il est d'un autre ordre. Être, alors on ne peut jamais avoir qu'un acte d'être, parce qu'on a un acte d'être qui tout de suite, hein, se manifeste par des actes seconds, de liberté, d'intelligence, de tout ce que vous voulez, mais au fond de tous ces actes seconds, d'intelligence, de volonté, d'amour, de liberté, de tout ce que vous voulez, il y a d'abord le fait qu'on est. Et ça, pour un philosophe, eh ben, c'est un sujet d'étonnement, d'admiration. Hein. C'est le Thauma Zen grec. Pourquoi est-ce que les choses sont plutôt qu'elles ne sont pas? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh ben, parce que cette chose est habitée par un acte d'être qui lui vient d'où? Eh ben, on n'en sait rien. Qui lui vient de l'être. Voilà, qui lui vient de l'être. Et donc l'âme, c'est la forme de l'être. C'est donc cette énergie d'exister. C'est ce qui fait que l'être humain est un existant. Avant d'être un homme ou une femme, un personne âgée ou pas, un type intelligent ou un type actif, tout ce qu'on veut, avant d'être tout cela, il est. Hein? Et cet acte d'être est premier et devance tous les autres actes seconds. Et pour le philosophe, eh bien, il veut caractériser cela d'une manière ou d'une autre, en disant, c'est important de ne pas oublier cela, hein, d'en tenir compte, pour ne pas mettre dans la définition de l'homme uniquement des actes seconds. Il y a d'abord un acte premier qui vient, on ne sait pas d'où, mais qui nous appartient en propre, mais qui, de certaine manière, quand même, nous est prêté. Donc voilà, cette âme, elle est à distinguer de toutes les autres puissances de l'être humain. La liberté, qu'elle soit une liberté de désir ou d'esprit, hein, selon mon vocabulaire, eh bien, est toujours déjà un acte second. La liberté elle-même est toujours un acte second par rapport au fait d'être. Et pourtant, la liberté est la puissance des puissantes. Ça veut dire, c'est ce qui rend humain toutes les autres puissances de l'homme, c'est-à-dire son corps, son langage, hein, sa sociabilité, son historicité, tout ça, sa mort aussi, eh bien, tout ça est traversé par la liberté qui est la puissance des puissances. La liberté est première. Mais elle est première dans l'ordre des actes seconds. Hein. Et avant cela, il y a l'acte d'être qui est donc l'âme. Voilà, je crois que c'est important de distinguer acte premier, acte second, hein, acte d'être, acte libre, parlant, social, etc. Lorsqu'on essaie de définir une personne. Une personne, c'est d'abord quelqu'un qui a conscience, non pas d'avoir toute une série de caractéristiques, hein, mais qui a conscience d'être dans l'être, et éventuellement ben, qui va disparaître de cet être, ou qu'il va y rester, j'en sais rien, mais il a conscience d'être. Donc l'âme est la forme de l'être, la liberté est la forme de l'agir, la raison la forme du penser. Et il y a une gradation donc qui va vers le haut et qui converge dans la personne comme personne. Voilà, la personne donc a conscience qu'elle est une, que cet étant qu'elle est, cette personne, elle est une, elle se possède et elle a des caractéristiques de beauté, de sens, de valeur, hein, d'intelligence, de volonté. Elle se distingue du végétal. Le végétal, classiquement, est défini par la nutrition et la reproduction. L'animal a en plus la capacité de sentir et de se mouvoir. Donc nutrition, reproduction, comme une plante, une pomme, ben, c'est un excellent organe de reproduction, hein, comme vous savez, les graines et tout ça, c'est de la reproduction. Les animaux ont une autre manière, mais en plus ils ont surtout le sentir, le se mouvoir, de toutes sortes de manières d'ailleurs. Et l'âme humaine, elle a la capacité de comprendre, non seulement de sentir, etc., mais de comprendre, d'agir et de prendre conscience qu'elle est. C'est une caractéristique très importante qui dépend ou qui ne dépend pas des autres puissances, qui est liée ou non au corps, etc. Alors là, on peut réfléchir. Hein. Est-ce que cette âme est immergée dans le corps et dans les puissances langagières, sociétales, etc. Bon. Ou est-ce que cette âme a une certaine transcendance, hein, par rapport à tout cela? Alors, s'il y a une transcendance, il n'y a certainement pas de dualisme. Hein. Ce n'est pas l'âme d'un côté et puis le corps ou le reste de l'autre, non. Il y a une très forte unité. Mais il y a quand même, en tout cas dans ma vision des choses, une transcendance, ça veut dire une irréductibilité, une indépendance de cette âme, mais déjà de la liberté en fait, hein, mais de cette âme certainement, par rapport à toutes les puissances qu'on a évoquées auparavant, et notamment par rapport au corps. Est-ce que ça veut dire que cette âme peut vivre immortelle lorsqu'elle est séparée du corps et tout ça? Ça c'est une question qu'on peut étudier, mais je crois que la question de la transcendance de l'âme humaine, proprement humaine, est importante, en tout cas dans ma vision. Cette âme n'est pas immergée, n'est pas immanente, hein, au monde matériel, même vivant, dont elle fait partie, dont la personne fait partie. Il y a une certaine transcendance, un certain décollement, hein, Et ce décollement, et c'est pour ça que j'y avais insisté quand même la fois passée, est dans une dépendance extrinsèque par rapport à la matière. Vous vous souvenez que la pensée, selon Joseph Maréchal, c'est un exercice un peu spécial, qui utilise toujours des représentations, mais dans dépendance extrinsèque par rapport aux éléments de la représentation. Eh bien, ici, je dirais qu'on peut utiliser le même petit processus mental en disant que l'âme est dans une dépendance extrinsèque par rapport à la matière, pas une dépendance intrinsèque. Bon, la vie du corps est dans une dépendance intrinsèque par rapport aux éléments qui la constituent, bien sûr, par rapport à la matière. Mais l'âme a la capacité de s'élever par l'intelligence, la volonté, la liberté, par des actes spirituels, fait que cette âme, eh bien, je la considère comme étant unie, bien sûr, avec tout son substrat, mais dans une certaine indépendance, certaine, ça veut dire extrinsèquement dépendante de la matière, pas intrinsèquement dépendante de la matière. Ce qui veut dire aussi ceci, et c'est une belle formule que je trouve importante, il n'y a pas de signification réservée au corps. Le corps humain ne peut pas être défini comme corps. Il doit être défini comme corps humain. Et donc un corps n'a pas de sens en soi, n'a pas de valeur en soi. Il a une valeur parce qu'il est le corps d'une personne humaine. C'est le fait que cette personne est dans son corps, habite son corps, qui fait que ce corps humain a une valeur. Alors, à mon avis, ça lui donne encore plus de valeur. Quand je dis que le corps n'a pas de signification réservée à lui, eh bien, ça augmente sa valeur. Ça augmente sa valeur. Mais le corps comme tel, le corps humain comme tel, s'il n'est pris que comme corps, ben, n'a pas plus de valeur qu'un autre corps quelconque. Mais le corps humain, justement, n'a pas de signification complète et qui puisse être donnée à partir du corps lui-même. C'est toujours à partir de la personne humaine que le corps prend son sens, sa valeur. Et ça lui donne alors un sens énorme, et une valeur énorme. La personne, elle est dans son corps, mais on pourrait tout aussi bien dire que c'est le corps qui est dans la personne. La personne est dans son corps, habite son corps, bien sûr, mais je dirais que la notion de personne est plus large finalement que la notion de son corps, grâce à cette âme proprement humaine. Bien, voilà, j'ai un peu ébauché l'explication de ce premier schéma, de cette première feuille de route du recto. Vous voyez comment j'essaie d'articuler donc toutes les données qui ont été explicité tout au long de ces leçons, et il me semble que tout ça donne un certain poids, une certaine richesse à la notion de personne humaine. Voilà, alors maintenant je vais prendre au verso le tableau récapitulatif de quelques notions de notre cours. Et je vais aussi expliquer ce tableau. Alors ça, je ne peux pas le mettre ici au tableau. C'est au tableau derrière moi. C'est un peu, c'est pas tellement un schéma. C'est plutôt voilà, une série de choses ordonnées entre elles. Je vais chercher à définir, eh bien, principalement la personne, à la définir. Et il n'y a pas qu'une définition de la personne. La définition de la personne est diverse, elle est complexe, et je dirais que les différentes manières de l'approcher se complètent l'une l'autre. Et même il y a une dynamique au cours de l'histoire. Alors, je dirais que la première chose que je vous ai dite, c'est, vous voyez la personne, que c'était un animal raisonnable. C'était la première définition, à deux termes, animal raisonnable. Bon. Ensuite, j'ai dit que la tradition philosophique avait compliqué un petit peu, précisé cet animal raisonnable en disant, c'est Boèce qui le dit, Boèce repris par saint Thomas d'Aquin, etc., La personne est une substance individuelle de nature raisonnable. Vous voyez, on est sur le tableau, hein, pas très difficile. Donc, substance individuelle de nature raisonnable. Bon, là, on a déjà quatre termes, plutôt que deux. En fait, substance individuelle vient préciser animal, et de nature raisonnable vient préciser raisonnable. Mais c'est plus complexe. On parle donc de l'individu, on parle de la substance, qui est une notion métaphysique, hein, et qui est donc, qu'est-ce que c'est une substance ? Eh bien, c'est un étant qui a une unité en soi, et qui est différent des autres. Il est donc pas on ne peut pas le confondre avec un autre, d'une part, ça c'est pour l'extérieur, et à l'intérieur, il a une unité complexe. C'est ça une substance. Hein. À l'intérieur, une unité, et à l'extérieur, une unicité, hein, par rapport aux autres particuliers. Alors, j'avais encore précisé avec les trois polarités de Balthazar. Vous vous souvenez, donc, hein, corps, esprit, homme, femme, individu, communauté. Là, on avait six termes. Six termes. Alors, vous voyez que je range donc animal raisonnable sous la première semaine et les deux autres définitions sous la deuxième semaine. Pourquoi ? Eh bien, souvenez-vous des exercices spirituels. Les exercices spirituels, quatre semaines. La première semaine, et ça correspond un peu aux dimensions anthropologiques, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on jette un regard sur son passé et on fait mémoire. On fait mémoire et on se demande, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur Terre ? Est-ce que c'était si magnifique, si bien, etc. Hein ? Et puis, bon, dans la logique, exercice spirituel, évidemment, ben on constate qu'on a vécu loin de Dieu et que c'est ça notre péché, et donc on désire, eh bien, se rapprocher de lui, méditer la vie du Christ, deuxième semaine, la vie du Christ, troisième semaine, la passion, quatrième semaine, les apparitions du ressuscité. Ces quatre semaines, eh bien, on peut les mettre en rapport avec les dimensions anthropologiques du corps, du psychisme, de la mémoire, si on veut, première semaine. De l'intelligence, parce que la deuxième semaine, méditer la vie du Christ, c'est méditer son enseignement, voir ce qu'il nous propose, hein, comme issue à notre vie qui, eh bien, on l'a constaté en première semaine, ne tient pas fort la route par elle-même. Hein. Ça, c'est l'intelligence. La troisième semaine, c'est la volonté. Ça veut dire que si on veut en effet suivre cette voie que le Christ nous propose, eh bien, on peut, avec l'intelligence, comprendre que c'est très beau, mais il faut maintenant le mettre en pratique. Et ça, c'est la volonté qui doit, eh bien, assumer, hein, les choix que l'intelligence a envie de faire, mais qui entraîne peut-être plus loin qu'on le croyait. Et la quatrième semaine, eh bien, c'est au-delà de la mort du Christ, c'est sa résurrection, qui signifie finalement sa liberté spirituelle. Donc, les quatre semaines en rapport avec les quatre dimensions anthropologiques et les temps de la liberté. Vous vous souvenez, les temps de la liberté, l'intention, le choix, deuxième semaine, le travail, la maîtrise de soi, la maîtrise des moyens, etc. Et finalement, eh ben, le résultat, qu'on espère évidemment une réussite, et dans ce cas-là, c'est la fruitio, c'est la jouissance, hein. L'acte de liberté, c'est aussi de recevoir, eh bien, la réussite des choix qu'on a faits et du travail qu'on a effectué pour que ce choix soit effectif. C'est la fruition, mais toujours avec le risque aussi de l'échec. Hein. Parce que se mettre au travail pour maîtriser quelque chose, eh bien, c'est avec l'espoir d'y arriver, mais c'est peut-être aussi prendre le risque de l'échec. Et si on ne prend pas le risque de l'échec, ben on ne va pas réussir. Hein. Alors l'échec, ben il est là de notre faute ou pas de notre faute. Hein. Il y a tous ces éléments contingents qui sont là autour de nous, qui font que grand footballeur, tout à coup, ben, il a un accident. Ben, voilà, c'est fini. Hein. Il ne peut plus jouer au football. C'est contingent. Mais ça peut être évidemment davantage le résultat de notre mauvais travail, si on veut, ou de nos mauvais choix, bien sûr. Mais l'échec, Eh bien, l'échec, comme je l'ai dit au cours passé sur la mort, l'échec, on y est tous confrontés d'une certaine manière, hein, que ce soit petitement au cours de sa vie ou finalement à la fin de sa vie par la mort, l'achèvement de notre vie biologique. C'est une forme d'échec qu'il faut assumer aussi, mais il peut être transformé. Et justement, la liberté qui n'a pas trop envie d'entrer dans ce travail et de prendre le risque de l'échec, et donc qui ne va pas réussir bien sûr, eh bien elle tourne en rond dans son choix en disant « bon ben c'est trop dur » ou bien « j'ai peur de l'échec, je vais choisir autre chose » et on recommence le cirque si on veut. Et c'est là qu'il y a deux formes de liberté. La liberté de désir que j'ai essayé d'expliquer, hein, celle qui veut toujours avoir tous les choix possibles devant elle, toutes les possibilités, ne rien se fermer comme porte, hein. Ça, c'est évidemment assez courant, aujourd'hui, peut-être toujours d'ailleurs, hein, mais voilà, il y a tellement de possibilités, on ne sait plus choisir, on veut tout essayer, et puis finalement, on essaye tout, et finalement, on va au bout de rien. Hein. Dès qu'il y a un petit effort à faire, on abandonne, on cherche une voie plus facile. Ça, c'est la liberté de désir, qui a été fort mise en avant par, semble-t-il, les existentialistes, etc. Hein, où, dès qu'on se sent coincé, on trouve une échappatoire et on recommence un nouveau choix. Eh bien, cette liberté, me semble-t-il, ne va pas au bout d'elle-même. C'est la liberté d'esprit qui prend sur soi, hein, le travail avec courage et le risque de l'échec et qui devient à ce moment-là une liberté apparemment plus contrainte puisqu'il y a tout ce travail, mais qui en réalité finit par vaincre les obstacles et à trouver une liberté de surcroît. Exemple, eh bien, les étudiants, hein, qui s'efforcent d'arriver au bout de leur diplôme, les instrumentistes, eh bien, qui passent des heures et des heures pour jouer des morceaux qui finalement sont magnifiques, et on dit, mais ça a l'air si facile, vous voyez, ça a l'air si facile après 1000 heures de travail, quoi, hein. Mais ça demande du travail. Liberté d'esprit. L'esprit, alors, ben voilà, est défini comme la liberté présente à elle-même. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette définition, hein, mais je répète, hein, que l'esprit, qu'est-ce que c'est l'esprit? Si moi je pense que je suis un esprit, ça veut dire quoi? Eh bien, je pense que je suis quelqu'un de libre et je suis conscient d'être libre, présent à elle-même, hein, et je veux actuer cette liberté. Et je suis donc, je mets mon énergie dans cette liberté, hein, que je sens présente en moi. Et plus, je dirais, j'actue cette liberté, je la mets en route, plus je me sens un être spirituel. Hein. Ça ne veut pas dire vaporeux et dégagé de toute contrainte, mais capable, oui, d'avoir vraiment choisi ce qu'il avait envie de choisir, hein, ce qu'il a élu comme voie. Voilà, j'avance donc dans mon tableau. Les dimensions anthropologiques, les temps de la liberté, les définitions de la liberté. La personne, donc j'avais commencé par là, comme animal raisonnable, comme substance individuelle de nature raisonnable, les trois polarités, je dirais que ça appartient à la première semaine, le fait d'être animal raisonnable, parce qu'il y a cette partie de animal, hein, donc le corps. Voilà, en première semaine, Saint Ignace nous dit même que nous devons nous considérer comme des animaux sans raison. L'homme est encore pire que l'animal, parce que l'animal, il n'est qu'animal. Hein, mais quand on a la raison, alors soit on est au-dessus de l'animal, soit on est en dessous. Hein, parce que on le fait librement. Tandis que substance individuelle de nature raisonnable, là il y a la question de l'intelligence, les polarités aussi, les distinctions. Mais je passe à la troisième semaine et sa définition, disons, hein, la définition de la personne qui va le mieux dans la troisième semaine. Ultime sujet d'attribution des actes et des puissances, responsabilité. La personne est quelqu'un qui, eh bien, assume ses actes. Il est l'ultime sujet d'attribution de ses actes. C'est non seulement quelqu'un de responsable, mais quelqu'un de volontaire et de libre au point de prendre la responsabilité, de devoir répondre. D'ailleurs, les tribunaux le savent bien, hein, quand on prend quelqu'un, on dit, ben, était-il libre de faire ce qu'il a fait? Oui, il était libre, donc il est responsable, donc, eh bien, il est acquitté ou condamné, je ne sais pas quoi. Donc, être personne, c'est être responsable de son agir. Et trois autres définitions qui appartiennent plutôt à, je dirais, l'atmosphère de la quatrième semaine, c'est que la personne est voulue pour elle-même. La personne est voulue pour elle-même. Elle est une fin en soi. Elle est sujet et objet de connaissance et d'amour. Elle est voulue pour elle-même. Eh bien, je reprends Kant qui définit l'impératif catégorique. Ça veut dire, bon, quel est le sens moral que nous avons ? Pour Kant, il essaie de définir ce sens moral en disant qu'il y a en nous comme une voix qui nous impose quelque chose, qui nous donne un impératif auquel on doit obéir. Et une des formulations de cet ordre, hein, que nous formule notre voix morale, c'est celle-ci. Ne traite jamais autrui comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Donc c'est une, hein, si vous avez ça comme, je dirais, comme maxime dans toute votre vie, vous serez un être moral. Hein. Ne traite jamais l'autre, autrui, l'autre personne, comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Donc la personne n'est pas là pour qu'on s'en serve, à quelque titre que ce soit, hein. Elle est là parce qu'elle a une valeur en elle-même, intrinsèque, valeur qui est non seulement à respecter, mais aussi, je dirais, à connaître et à aimer. Hein. La personne est voulue pour elle-même, elle n'est pas voulue pour autre chose. Ben, par exemple, dans une famille, évidemment, ben, les enfants sont là, ils sont voulus pour eux-mêmes. Hein. Ils ne sont pas voulus en vue de autre chose. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, je dirais, pousser de manière un peu abstraite cette idée, parce que par exemple, si je veux déplacer un meuble qui est lourd, ben, je demande à quelqu'un de m'aider, mais je m'en sers comme moyen, hein, comme moyen de locomotion et de transport pour faire quelque chose, d'accord ? Mais je ne réduis pas la personne à cela, hein, évidemment. Si j'ai une entreprise, évidemment, j'ai des employés, des ouvriers, je m'en sers comme moyen, entre guillemets, pour faire tourner l'entreprise, mais justement, hein, pour Kant, si l'entrepreneur se limite à ça, eh bien, il n'est pas moral, il n'est pas humain. Bien sûr, il va demander à ses ouvriers de travailler, ben, c'est sûr, mais il va les respecter comme personne, et donc il va les rémunérer, par exemple, de manière équitable, premièrement. Hein. Si cette personne a un problème quelconque, etc., ben, il va d'abord faire passer ce problème personnel avant l'intérêt de son entreprise. Mmh. S'il dit, ben non, tant pis, votre femme accouche, mais moi, ça m'est égal, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour... transporter ce bazar ailleurs, voilà, il ne prend pas cette personne comme une personne voulue pour elle-même, respectable en elle-même, hein, qui a maintenant un problème urgent à résoudre, hein. Il le prend uniquement comme un moyen. Donc ça, c'est ça l'idée de Kant. Je trouve que c'est une très belle définition de l'impératif catégorique et de la morale, et finalement de la personne. Vous voyez que tout se recoupe, hein. La personne, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, c'est la personne, c'est l'être qu'on ne peut jamais considérer comme un moyen uniquement, mais fine finalitaire, qui est une fin en elle-même. Hein. Elle est là pourquoi? Parce qu'elle elle mérite ou elle ne mérite pas, mais elle est là, et donc il faut la respecter, et la connaître et l'aimer. Donc voilà, autre définition de la personne, elle est sujet et objet de connaissance et d'amour. Sujet, ça veut dire que ben, je suis activement capable de connaître et capable d'aimer les autres. Mais pourquoi et en vue de quoi? Eh bien parce que je suis aussi objet de connaissance et d'amour. On peut me connaître et on peut m'aimer. Et d'ailleurs, je deviens un sujet, hein, parce que d'abord, eh bien, pour mes parents, j'ai été objet de connaissance et d'amour. Hein. C'est en étant aimé qu'on apprend à aimer. Et donc, on est à la fois activement et passivement, hein, sujet activement et objet passivement, de connaissance et d'amour, intelligence et volonté de nouveau. Et ça, c'est aussi une très belle définition de la personne. Hein. me semble-t-il. Sujet et objet de connaissance et d'amour. Voilà, donc là j'ai repris les définitions de la personne sous la 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Il reste âme, forme de l'être. Et là aussi, il y a de belles choses à dire, si on veut. Hein. Donc, quelle est ma définition de la personne? Eh bien, je les prends toutes. Je prends toutes ces définitions, hein, celles qui correspondent plutôt à première, deuxième, troisième ou quatrième semaine, je les prends toutes ensemble, je trouve qu'elles se recoupent, qu'elles se complètent, qu'elles se nuancent l'une l'autre. Par exemple, la responsabilité, ben, donne un certain poids, hein, à la personne au niveau de « il doit répondre de ses actes ». Voulu pour elle-même, ça ne veut pas dire être narcissiquement là en attente qu'on m'aime et qu'on me connaisse. Hein. Il y a aussi une responsabilité. Donc ça se complète. Voilà. Eh bien, on peut voir à partir de l'âme, qui est l'acte premier donc, de la personne, hein, la forme de l'être, l'acte d'être, acte premier, que, eh bien, au fond, cet acte d'être, avec toutes ses caractéristiques, à la fois opère un mouvement centripète sur lui-même, de recueillement, mais pour pouvoir opérer un mouvement centrifuge de rayonnement à l'extérieur d'elle-même. J'essaie de m'expliquer. Hein, la personne, grâce à tout ce qu'elle est, parvient à s'unifier en elle-même, parvient à se concentrer sur elle-même, parvient à se connaître, parvient à aller au centre d'elle-même, à savoir, dans la mesure où on peut le savoir plus ou moins profondément, qui on est. Et c'est une grande qualité de la personne que d'être capable de faire cette espèce d'introspection, hein, métaphysique si on veut, hein, cette espèce de connaissance de soi, cette connaissance de son âme. Alors j'ai mis forme substantielle, ça bon, laissons tomber pour l'instant, hein, mais comme je vous ai dit, la forme c'est ce qui unifie la substance en elle-même. Et chacun de nous, eh bien, grâce à sa liberté, etc., peut approcher cet acte premier d'être qui le soutient dans l'être, et communier, entrer en contact, hein, profond avec ce centre de lui-même. C'est ce que j'appelle le recueillement. Et là, au fin fond du centre de moi-même, eh bien, je me connais plus ou moins, hein, je suis aussi un mystère à moi-même d'ailleurs, hein, ce qui n'est pas étonnant, dit de Lubac, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu. Dieu est un mystère, donc nous sommes créés à l'image d'un mystère, donc nous sommes mystère. Hein. Mais ce mystère que nous sommes à nous-mêmes a quelque chose d'incommunicable, parfois d'inconnaissable pour nous-mêmes. Hein. Qui suis-je? Pourquoi? A quelque chose d'incommunicable. Et pourtant, la personne, je dirais, qui est capable de ce mouvement de recueillement, est aussi en même temps appelée à rayonner ce qu'elle est, à entrer en contact avec les autres, à donner aux autres ce qu'elle est, et à accueillir d'ailleurs l'autre dans ce qu'il est. Et là, ce n'est plus un mouvement de repli sur soi, centripète si on veut, c'est un mouvement au contraire centrifuge, on se donne. La personne est cette personne qui, à l'intime d'elle-même et de son propre secret, est capable d'avoir un rayonnement, plus ou moins naturel, plus ou moins volontaire, pour entrer en contact avec les autres, pour donner aux autres ce qu'elle est, et recevoir des autres ce qu'ils sont. Et là, donc, c'est non plus l'incommunicabilité qui est soulignée, mais la communion. Et une communion qui ne requiert pas une entière communicabilité. Hein. Je dirais qu'on peut très bien aimer quelqu'un, et je crois d'ailleurs que plus on aime quelqu'un, plus cet autre reste et devient de plus en plus profondément mystérieux, mais ça ne nous empêche pas d'être en communion. On peut, je dirais, être proche d'une personne tout en disant cette personne, ben, je ne la connais pas entièrement dans tout ce qu'elle est, et pourtant elle veut se communiquer à moi, elle veut se donner, s'exprimer, elle veut rayonner sur moi et moi sur elle. Et donc il y a une communion, mais une communion, je dirais, comme de deux mystères, quoi, qui s'envoient des messages plus ou moins difficiles à décrypter, mais codés aussi, oui, mais qui ont, voilà, qui ont leur saveur, je dirais, hein, dans l'être et dans l'amour. Alors je dirais que la première forme de mouvement centripète, ça correspond plutôt à ce qu'on appelait la forme, l'âme comme forme substantielle, ça veut dire qui informe la substance. Et la seconde, eh bien, c'est plutôt l'âme définie comme forme subsistante, ça veut dire qui est capable d'exister par elle-même, hein, l'idée que l'âme quitte le corps et continue à vivre de manière immortelle sans le corps. Voilà, mais ça, bon, ce sont un peu des parallèles peut-être plus subtil de vocabulaire et tout, mais je trouve que, et c'est par là que je vais terminer, je trouve que cette idée de recueillement et rayonnement me semble très belle. Qu'est-ce que c'est une personne? C'est une personne qui est capable d'avoir une intériorité, et qui est capable de communiquer, d'entrer en communication avec les autres sans éteindre ce mystère qui est en elle, sans épuiser cette richesse qu'elle recueille en elle, sans l'épuiser, sans l'exposer, sans la gaspiller, mais non pas de manière solipsiste, mais de manière au contraire généreuse, avec un certain rayonnement que les autres, dont les autres peuvent profiter, et dont lui-même aussi profite en communion avec l'autre, avec les autres. Voilà, de cette manière, je pense que nous avons fait quand même un bon tour de piste sur différentes définitions de la personne. Et cette personne, nous allons voir si, avec toute cette richesse que je viens d'essayer de mettre en évidence, si cette personne, eh bien, se trouve ou non, devant le mystère de l'être, devant Dieu, ou devant une personne, ou non, et éventuellement, comment il y aurait une communication, recueillement et rayonnement aussi, une communication possible entre la personne humaine et Dieu éventuellement. Voilà, nous arrêtons ici et la fois prochaine, nous aurons la dernière leçon.